Bonjour et bienvenue sur Fracture. Fracture, une émission d'actualité sociale, d'actualité des luttes. Nous enregistrons encore cette émission de chez nous. Aujourd'hui, au programme, une interview par Cathy avec Claudia Charles du Gisti sur la situation des exilés bloqués aux portes de l'Europe face à la politique raciste et mortifère de l'Union européenne. Ce sera un focus sur le hotspot grec en cette période de pandémie. Et ensuite, dans un deuxième temps, Robin nous présentera une interview de Guillaume Davranche suite à la sortie de son livre « 10 questions sur l'anarchisme ». Tout de suite, quelques brèves.
Ah là là, vous savez ces gens-là, hein, ils sont impatients. Voilà, le v'là. Alors les PTT, ça marche?
Des brèves, vive les brèves!
Tout à fait, et pour commencer ces brèves, une brève sur les manifs de déconfinement qui ont eu lieu, notamment en soutien à toutes les personnes qui ont été fortement sollicitées et mobilisées durant cette épidémie, et aussi pour dénoncer les violences policières. Il y a donc eu des rassemblements à Paris, à Saint-Étienne, à Rennes, à Toulouse, à Nantes. Ça a pris des formes assez diverses, des chaînes humaines, des rassemblements, le tout dans le respect des distances barrières par des groupes de moins de 10 personnes, un peu partout en France. Cependant, on a pu noter la présence de très nombreuses forces de l'ordre et pas toujours la possibilité de tenir des rassemblements en raison des dispersions policières. Et bien sûr, beaucoup de verbalisations de manifestants, notamment pour non-respect des règles de distanciation sociale et manifestations non déclarées. Un certain nombre de gardes à vue aussi ont été notés suite à ces manifestations.
Une autre brève sur, cette fois, la mobilisation pour les sans-papiers. Alors, malgré le confinement, la machine à expulser mise en œuvre par les préfectures ne s'arrête pas. C'est ce qui est constaté et dénoncé par notamment l'association Mine de Rien, qui vient en aide aux mineurs étrangers isolés dans la Vienne depuis octobre 2016. Ces dernières semaines, ce sont 4 jeunes de plus qui ont vu leur demande de titre de séjour refusée et qui ont reçu une obligation de quitter le territoire français sous un mois. Arrivés en France il y a plusieurs années en étant mineurs, ils avaient demandé à leur majorité à pouvoir rester en France pour continuer leur formation ou commencer à travailler. En effet, ils sont maintenant bien établis, scolarisés, en préparation d'un diplôme, en stage en entreprise, bref. Ils sont enfin sur la voie d'une vie paisible après avoir vécu de nombreux traumatismes et l'État français n'a qu'une seule, chose à leur proposer, un billet d'avion pour retourner dans le pays qu'ils ont fui ou une vie de sans-papiers. Bref, pour ces jeunes, c'est inenvisageable et leur refuser une situation régulière en France, c'est les pousser dans l'illégalité, la clandestinité et la précarité. Il faut rappeler que ce refus de titre de séjour n'est pas une surprise ou une nouveauté. La France mène depuis longtemps une politique très dure envers toutes les personnes qui viennent se réfugier en France pour fuir la guerre, la famine ou les violences en tout genre. D'ailleurs, la loi Asile et Immigration qui a été votée en septembre 2018 repousse encore plus loin les limites de l'inhumanité, avec par exemple un allongement de la durée de détention en centre de rétention administrative. D'ailleurs, d'après le Défenseur des droits, en 2017, ce sont jusqu'à 275 enfants qui ont été placés en rétention. Ainsi, alors que le Portugal a choisi de régulariser des dizaines de milliers de sans-papiers, ce qui leur donne finalement accès à des protections sociales face au virus Covid-19, eh bien la France, elle, s'obstine dans sa politique raciste. Alors pour en revenir à la Vienne, les 4 jeunes vont faire appel au tribunal administratif avec l'aide de cabinets d'avocats engagés sur la question, mais cette décision est un vrai coup de massue pour eux. Alors pour dénoncer cette décision et la politique migratoire menée en France, l'association appelle à manifester lundi 18 mai à 18h sur les places, les ronds-points ou aux fenêtres, et évidemment en limitant les rassemblements à 10 personnes et en respectant les gestes barrières.
Et pour finir ces brèves, on va finir avec une bonne idée qu'ont eue les députés En Marche, une idée qui serait de permettre aux salariés qui le souhaiteraient de faire don aux soignants de certains de leurs congés. Muriel Le Pénicaud, ministre du Travail, est évidemment favorable à la proposition car c'est bien pratique que ça soit les contribuables qui compensent le travail énorme réalisé par le personnel soignant. Et quand on connaît la crise que vit l'hôpital depuis des années, et quand on sait que ces députés ne vont certainement pas changer de direction à ce propos, ce genre de loi, eh ben nous on le vit vraiment comme du foutage de gueule. Les gens prêts à contribuer devraient s'abstenir et se tenir plutôt prêts à filer un coup de main lors des prochaines mobilisations dans le milieu de la santé et filer du pognon aux caisses de grève. Voilà pour les brèves, et avant de poursuivre, on s'écoute une chanson de Mercedes Sosa.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento.
Relayer aujourd'hui la situation des exilés bloqués aux frontières de l'Union européenne où ils espèrent obtenir protection. Et plus particulièrement, on va faire un zoom sur les hotspots grecs et la situation à la frontière grecque. Tous ces hotspots se sont 5 camps de détention à ciel ouvert dans les îles grecques, créés par l'Union européenne dès 2015, sous couvert de solutions à la crise migratoire. Il y a 42 000 personnes qui sont actuellement parquées pour des infrastructures qui prévoient la prise en charge de 6 000 d'entre elles. Les exilés y sont retenus pendant plusieurs mois ou années, le temps de l'examen de leur situation, sans pouvoir rejoindre le reste du territoire grec ou les autres pays européens. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, on est avec Claudia Charles, salariée du GISTI. Bonjour Claudia.
Bonjour.
Le GISTI, c'est une association qui promeut la liberté de circulation des personnes et le respect des droits des étrangers. Claudia est également membre du réseau Migre Europe pour le GISTI. C'est un réseau qui regroupe des militantes, des chercheurs et chercheuses européens et africains, avec l'objectif de lutter contre la généralisation de l'enfermement des étrangers. Ces deux organismes viennent de publier un rapport sur leur mission d'observation dans le hotspot de Samos. Vous pourrez le retrouver sur leur site pour mieux comprendre les origines de ces hotspots et les conditions de vie à l'intérieur. Alors Claudia, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe avec la pandémie mondiale dans ces hotspots à l'heure actuelle et quelles mesures ont été prises par les autorités grecques ?
Oui, en fait, il faut savoir, comme tu as dit, il y a le rapport qui peut indiquer quelles sont les conditions de vie, déjà qui sont extrêmement précaires. Et le 22 mars, les autorités grecques ont décidé que, en raison de la pandémie et afin de protéger la population et les personnes migrantes elles-mêmes, bien sûr, il y avait une décision de confinement dans les hotspots, ce qui signifie que ces personnes ne pouvaient pas ou ne peuvent pas sortir des hotspots, puisque confinement, ça veut dire effectivement confinement. Donc, autant avant, elles sont confinées sur l'île, mais pas à l'intérieur du centre. Et maintenant, elles sont censées être confinées à l'intérieur, justement, du centre. Ce qui, quelque part, même surtout, aggrave leurs conditions de vie, puisque, comme on sait, et en tout cas, comme le dit le rapport sur Samos, il y avait un rapport sur Chios, et des personnes qui sont sous-alimentées, qui sont dans des conditions extrêmement précaires, cela leur permettait, avant le confinement, elles pouvaient sortir pour éventuellement aller acheter de la nourriture, pour acheter de l'eau, puisqu'elles n'en bénéficient pas ou vraiment très peu. Et donc, elles se trouvent dans des conditions encore plus précaires, sans bénéficier non plus des soins médicaux et sans bénéficier non plus, ou en tout cas, ne pouvant pas respecter les normes qui sont toujours expliquées à tort et à travers, la distanciation sociale, le lavage des mains, l'hygiène, etc.
D'accord. Et tu expliquais qu'au niveau de la participation des associations, des organisations qui intervenaient jusqu'alors, est-ce que ça a pu se maintenir ou non?
Pour l'instant, non, à notre connaissance. Et on ne sait pas, je n'ai pas d'informations, et en tout cas, je n'ai pas vu passer une information du gouvernement grec qui mette fin à ces confinements, en tout cas sur les hotspots. Et effectivement, avec une présence très réduite, voire nulle, de la part des associations qui étaient autorisées à entrer dans le centre d'enfermement, enfin, dans les hotspots, en fait. Donc, cela rend la situation d'autant plus difficile.
Par le passé, dans le rapport, on peut lire qu'il y avait des résistances qui s'organisaient régulièrement à l'intérieur des camps. Il peut y avoir des sit-ins, des manifestations pacifiques, parfois aussi des incendies provoqués pour des raisons de protestation. Est-ce qu'il y a encore des résistances qui se mettent en place à l'heure actuelle? Et si oui, quelles sont les réactions des autorités face à ça?
Et tu as raison de dire, d'ailleurs, dans les hotspots des Samos, et on fait état justement de ces manifestations pacifiques, les gens qui se réunissent, qui protestent, soit par nationalité, soit ensemble pour protester effectivement contre leurs conditions de vie. Et actuellement, nous n'avons pas connaissance de nouvelles manifestations. Nous savons qu'il y a eu un incendie à Samos dans la nuit du 3 au 4 mai, si je ne me trompe pas. Et nous ne savons pas encore quelle est l'origine de cet incendie. Il se peut que ça soit une origine accidentelle ou que ce soit aussi un incendie provoqué par les personnes se trouvant à l'intérieur du hotspot de manière de manifestation. Ce qui s'est fait déjà par le passé, tu as raison de le souligner, c'est quand même parfois quasiment la seule manière de pouvoir donner à la lumière ou en tout cas de faire connaître les conditions de vie. Et donc actuellement, nous ne savons pas s'il y a de nouvelles manifestations. Nous imaginons que du fait du confinement, il y a beaucoup plus de pression de la part des autorités sur les habitants ou sur les personnes concernées se trouvant à l'intérieur des hotspots pour ne pas justement manifester puisqu'elles sont censées être confinées. Et ce qui rend les choses d'une manière... Enfin, en tout cas, de manière beaucoup plus opaque, obscure, sans qu'on sache vraiment ce qui se passe pendant ces derniers 30 jours, un petit peu plus 45 jours. Donc ça, on ne le sait pas, mais ce qui peut être sûr, c'est qu'une fois la décision de déconfinement prise, et il n'y a pas de raison de penser que les gens ne continueront pas à manifester et à dénoncer leurs conditions de vie. Ce qui est très intéressant, parce qu'ils n'attendent pas à ce que cela soit fait uniquement par les associations ou par le rapport, mais elles aussi, elles essayent de prendre la parole et de prendre les choses en main et dénoncer ces conditions de vie.
Alors, il y a des choses qui ont évolué aussi depuis la fin du mois de février, avec la fin de l'accord UE-Turquie. Quelles ont été les conséquences pour les exilés de la fin de cet accord et comment la situation a évolué depuis?
Alors, la fin de l'accord UE-Turquie, je ne sais pas si on peut dire vraiment la fin de l'accord. Hein. Et il n'y a nulle part qui dise qu'il y a la fin de l'accord. Enfin, les autorités grecques disent ça c'est la fin de l'accord, en tout cas et il faudrait imposer de nouvelles obligations à la Turquie. La Turquie dit voilà, on peut aussi exiger de nouvelles choses, exiger que l'autorité, que l'Union européenne respecte les obligations qui étaient celles les siennes lors de l'accord de Turquie. Et pourquoi je dis pas la fin de l'accord de Turquie? Parce que pendant le mois d'avril, on a pu avoir aussi des nouvelles d'une rencontre entre la présidente de la Commission européenne, ou en tout cas, me semble-t-il, le président du Conseil de l'Union et le président français et la chancelière allemande. Et il y avait Erdogan, donc on peut supposer qu'il y a toujours une négociation en cours et voir de quelle manière la Turquie pourrait à nouveau procéder au contrôle de ses frontières afin d'éviter le passage de personnes du territoire turc vers le territoire grec. Donc ça, mais certainement ça sera avec beaucoup moins de lumière, s'il y a un accord, s'il y a renégociation de l'accord, ça se fera d'une manière beaucoup moins publique que ce qui avait été fait en 2016. Les obligations de chaque partie, dites d'une manière bien moins claire que ce qui avait été dit au début. Alors, quelles sont les conséquences? On sait que depuis que la Turquie ou les autorités turques ont décidé d'ouvrir les frontières et de dire aux personnes aller vers la Turquie, vers la Grèce, puisque la Grèce a ouvert les frontières, et il y a eu le passage d'un certain nombre de personnes qu'on ne connaît pas avec exactitude. C'est toujours difficile de dire le nombre de personnes, mais selon les articles de presse, cela ne dépassait pas, et pas en même temps, bien évidemment, les 14 000-15 000 personnes. Donc c'est vraiment assez peu par rapport à tous les discours un peu des dangers, la menace migratoire à nouveau sur le territoire européen, la menace de l'invasion. Et effectivement, des personnes qui, étant sur le territoire turc, sont venues sur la Grèce en pensant qu'effectivement, elles allaient être accueillies. À ce moment-là, la Grèce décide de prendre un décret qui suspend tout dépôt de demande d'asile. Elle décide d'enfermer toute personne qui arrive à passer la frontière grecque et de notifier et de leur notifier une décision d'éloignement. Et elle procède effectivement à ces mesures avec, comme la presse, mais surtout je dirais un peu la presse anglo-saxonne et aussi la presse grecque, la presse turque, qui ont procédé effectivement à montrer comment il y a eu beaucoup de refoulements les premiers jours et ensuite de ces décisions des autorités grecques et des autorités turques, ont procédé à des refoulements bien évidemment illégaux des personnes vers le territoire turc, à des violences. Et on a cru voir aussi, on a vu d'une certaine manière des photos absolument scandaleuses des mauvais traitements, enfin des personnes qui avaient été blessées. Et je rappelle qu'il y avait eu 2 morts, en tout cas déjà confirmées de la part des autorités grecques. Et ensuite, il y a eu pour celles et ceux qui arrivaient à passer et qui arrivaient sur la frontière grecque, sur le territoire grec, elles ont été enfermées avec pas mal d'illégalités ou en tout cas des actions illégales, parce que je rappelle que en tout cas pendant au moins une semaine, si ce n'était pas deux, 450 personnes qui sont arrivées sur le territoire grec ont été détenues illégalement, bien sûr, sur un bateau, et on ne leur a pas permis de descendre du bateau et descendre sur terre, et elles n'ont pas eu accès à un conseil, elles n'ont pas eu accès à quelques personnes que ce soit, elles avaient accès à très peu de nourriture, à de très mauvaises conditions sanitaires sur les bateaux, et ce n'est que bien après qu'effectivement ces personnes ont été transférées dans un centre de détention sur la partie continentale de la Grèce, afin de, on leur a notifié des décisions d'éloignement, bien évidemment en grec, sans qu'elles comprennent de quoi il s'agissait, et elles sont dans l'attente de pouvoir être expulsées, puisque pour l'instant les frontières sont fermées et pour l'instant on n'a pas pu les éloigner, soit vers la Turquie, soit vers leur pays d'origine, ce qui paraît un peu plus difficile, mais en tout cas vers la Turquie. Et je suppose qu'à partir du moment où la Grèce et la Turquie vont ouvrir les frontières, elles vont être expulsées vers le territoire turc. Voilà pour... Et encore aujourd'hui, ça c'est vraiment quelques jours, quelques semaines après la décision d'Erdogan d'ouvrir les frontières, qui est du 28-29 février. Et aujourd'hui, grâce à des associations qui sont encore sur place, et on peut avoir des rapports qui se trouvent aussi sur le site du Justice pour celles et ceux à quoi cela intéresse, à qui cela intéresse, et des rapports qui dénoncent avec des faits très précis, des dates, des lieux, du nombre de personnes, d'âge, de nationalité, des personnes qui sont l'objet de refoulements de la part des autorités grecques. C'est-à-dire que ça continue à la frontière, mais ça continue aussi à l'intérieur du territoire grec, où les autorités grecques procèdent à l'expulsion collective et illégale de ces personnes et à de mauvais traitements également. Donc c'est toute une série d'illégalités qui continuent sans que, je ne dirais pas que personne parce que effectivement les communiqués de presse, les tribunes, les pétitions, les rapports se succèdent pour les dénoncer, mais je dirais sans que l'Union européenne réagisse comme cela devrait être le cas, et pour cause, c'est parce que l'Union européenne aussi soutient fortement cette action de la part des autorités grecques.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce soutien de la part de l'Union européenne, sur le rôle qui est joué à l'heure actuelle?
Oui, bien sûr. Alors, et c'est quelque chose qui fait déjà l'Union européenne depuis fort longtemps. Hein. Et comme on l'a dit dans le rapport, les hotspots, comme tu l'as dit dans l'introduction, et les hotspots ont été créés à l'initiative de l'Union européenne, et pour indiquer l'afflux massif, selon les autorités européennes encore, et sur le territoire européen en 2015-2016. Le soutien de la part des institutions de l'Union a été permanent, non seulement pour faire en sorte que la Grèce retienne les exilés et les empêche de venir sur d'autres pays de l'Union européenne. C'est la même chose vis-à-vis de l'Espagne, c'est la même chose vis-à-vis de l'Italie, et c'est toute cette politique d'externalisation qui fait que on négocie avec des pays dits tiers, donc pays tiers à l'Union européenne, en tout cas nos membres de l'Union européenne, afin que ce soit ces États-là qui procèdent à cette rétention. C'est le cas de l'accord UE-Turquie, c'est aussi le cas des accords avec d'autres États comme le Niger, comme la Libye, comme la Tunisie, comme le Maroc, etc., etc. Mais surtout ceux qui, comme l'Ukraine aussi, ceux qui, comme la Serbie et tous les pays des Balkans. Alors, donc c'est un soutien permanent, et ici, lors de cette nouvelle crise, entre guillemets, et je crois que la première réaction de l'Union européenne a été celle de la présidente de la Commission européenne qui a dit « la Grèce est le bouclier de l'Europe ». Et toutes les déclarations, que ce soit des institutions de l'Union ou des présidents ou premiers ministres des pays membres de l'Union, je rappelle celle d'Emmanuel Macron qui dès le premier jour, à part Twitter, a dit « il faut protéger nos frontières ». C'est-à-dire que c'était absolument clair. Il ne s'agissait absolument pas de permettre l'accueil de ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ou certaines, ou la plupart, ou toutes, venaient à la recherche de protection, parce qu'on sait aussi quelles sont les conditions de vie sur le territoire turc. Mais il n'y avait aucune volonté d'accueil, et surtout, il y avait une volonté de procéder à la fermeture des frontières et faire en sorte que personne n'y rentre. Et pour cela, donc, on a envoyé et non seulement des moyens financiers, mais aussi des moyens des ressources humaines, puisque Frontex, qui est l'agence européenne des gardes-corps de frontières extérieures ou de frontières de l'Union européenne, est allée très vite sur place afin d'aider à soutenir, à appuyer les gardes-côtes grecs et permettre le refoulement justement de toute personne pour les empêcher de rentrer sur le territoire de l'Union européenne, sur le territoire grec, et éventuellement sur le territoire de l'Union européenne. Et par la suite, ils se sont fait un peu, je dirais, un tout petit peu plus discrets. Et l'Union européenne a annoncé qu'elle allait accorder un certain nombre d'euros, je me rappelle si c'était 3 millions d'euros, pour l'accueil et pour soulager la Grèce dans ces passages difficiles pour les conditions de vie des personnes. Cela dit, c'était quelque chose de, d'abord 3 millions d'euros, si c'était ça, mais il me semble que c'était ça, ce n'est absolument rien. Et ensuite, parce que on sait bien que tant que la politique de l'Union européenne et de la Grèce et des États membres de l'Union européenne continue, ce n'est pas l'argent en soi. C'est surtout toute cette politique d'externalisation, d'un plus, tout l'argent qui a été accordé aussi aux pays tiers, rappelons-nous des 6 milliards d'euros qui ont été accordés à la Turquie pour l'accueil des personnes et pour le maintien, la rétention des personnes exilées sur le territoire turc. Donc voilà, la réaction de l'Union européenne, et je dirais qu'elle n'est pas surprenante parce que c'est la même qu'elle tient depuis un certain nombre d'années. Et on aurait pu penser qu'au moins pour la forme, elle allait protester contre la décision des autorités grecques de suspendre tout dépôt de demande d'asile. Et ce n'est que la commissaire pour les affaires intérieures qui a timidement dit que la Grèce devrait procéder à permettre ce dépôt de la demande d'asile, mais c'était une déclaration vraiment qui est passée, je crois, quasiment inaperçue, tellement elle était timide. Et surtout, l'Union européenne, si elle voulait vraiment agir contre ces agissements, la Commission européenne dispose de tout pouvoir pour entamer une investigation, pour demander des comptes aux autorités, voire éventuellement de saisir la Cour de justice, pour faire condamner la Grèce pour ses agissements illégaux. À ma connaissance, elle ne l'a pas fait et certainement elle ne le fera pas.
Merci. Alors, on a vu qu'il y a eu des mobilisations par le passé et à l'heure actuelle contre cette politique sécuritaire de l'Union européenne. On a pu lire récemment un communiqué de la coalition contre les violences aux frontières. Il y a également eu une campagne d'information notamment du GISTI sur les agissements de l'Union européenne à la frontière gréco-turque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les perspectives de ces mobilisations-là?
Oui, en fait, déjà, le GISTI Migre Europe continueront à dénoncer par quelques moyens que ce soit. Hein. Nous avions d'ailleurs à cette occasion d'un communiqué sur le hotspot et publié une vidéo aussi pour dénoncer grand public ce qu'est le hotspot. C'est bien avant, l'idée était bien avant les événements des fin février, début mars. Donc nous continuerons à dénoncer, on essayera de travailler d'une manière la plus large possible avec les associations effectivement qui ont manifesté l'intérêt pour la coalition. C'est des associations de tous bords, des associations anglaises, des associations allemandes, des associations grecques, des associations françaises. Et on continue la réflexion sur... La coalition s'est créée surtout pour agir contre la violation des droits fondamentaux aux frontières. Et cela passera par la dénonciation politique, mais aussi et surtout, je dirais, par les actions contentieuses qu'on pourra entamer. Ce n'est pas toujours évident parce que et l'information n'est pas toujours facile à avoir. Et nous espérons que dans un futur proche, il y aura des actions contentieuses, à la fois des actions contentieuses au pénal, parce que, et par exemple, comme l'a bien précisé, et elle continue à bien faire l'étude de ces faits, il y a eu deux personnes qui sont décédées à la suite de ces réunions au début mars, et par les gardes-côtes grecs. Donc, il y a tout un travail qui doit être mené en amont, ça prend du temps, mais on espère que cela va pouvoir aboutir vraiment à une plainte pénale. Et ensuite, nous envisageons différentes actions contentieuses auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Et il y a eu des actions auprès des tribunaux grecs, hein, il y a eu des actions auprès du Conseil d'État grec, et des avocats et avocates avec certaines associations qui ont demandé à ce qu'on permette à des personnes de déposer la demande d'asile et le Conseil d'État grec et à ne pas les expulser, hein, à ne pas vraiment les expulser. Le Conseil d'État grec, à ma connaissance, a rendu quelques décisions, pour certaines positives, mais pas pour toutes. Et donc des actions auprès des instances européennes, des juridictions européennes. Cela prend aussi beaucoup de temps parce que il faut maintenir le lien avec les victimes, parce que il faut avoir des témoignages, parce que il faut vraiment faire des dossiers qui soient suffisamment convaincants aussi du juge. On sait que à la fois la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice sont parfois je dirais quel terme utiliser, mais sont parfois très réticents à reconnaître ces droits. Et donc, plus il y aura des dossiers bien construits en amont, plus on espère, on aura la chance que cela prend du temps. Malheureusement, ce ne sont pas des décisions très rapides, mais qu'il y aura une condamnation forte de la Grèce et in fine de l'Union européenne. Merci à vous.
Les informations, un certain nombre d'informations que tu as données sur le site du GISTI, gisti.org, oui. Également sur le site de Migros Europe.
Tout à fait.
Merci beaucoup à toi.
Ah, merci à toi et désolé par le bruit.
C'est pas grave.
Désolé, mille excuses et encore merci pour l'invitation. Et n'hésitez pas à regarder les sites internet. Nous essayons d'actualiser l'information et nous ne manquerons pas de donner à connaître les nouveaux événements.
Eh bien, merci pour cette discussion. Avant de passer à la dernière partie de cette émission, une petite pause musicale.